Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère Enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Nous avons la parole de Dieu qui renverse des chaînes, des forteresses.
Tu passes du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi.
Alléluia, on va continuer ce matin. Et quand j'ai entendu hier que certains étaient choqués après les partages forts de Liliane, j'ai dit, oh, qu'est-ce qu'ils vont dire avec moi et puis mon style. Donc vous avez été encore plus choqués, tout va bien. Et ce matin, vous allez encore être choqués, et tout va bien. Béni soit Dieu. De toute façon, si vous voulez pas être choqués, faut simplement fréquenter les WC un peu plus souvent. Il y a souvent dans les WC la prière de ceux qui ne veulent pas être choqués. Cette prière dit prière de laisser les lieux dans l'état où vous les avez trouvés en entrant. Et je vois qu'il y a pas mal de croyants qui aiment davantage la prière du WC que toute autre prière. Et consciemment ou inconsciemment, ils sont là, oh Seigneur, je suis venu à gagner, mais prière du WC, prière de laisser les lieux dans l'état où tu les as trouvés quand je suis arrivé ici. Donc pour tous ceux qui font la prière du WC ce matin, attention, la chasse d'eau va venir. Mais pour tous les autres, on va simplement lâcher nos amarres, le contrôle sur nous-mêmes parce qu'on a un Dieu bon et il va encore nous faire du bien. Saint-Esprit, merci d'agir au milieu de nous ce matin. Nous te bénissons, tu es vivant. Merci Seigneur, au nom de Jésus, viens encore toucher nos vies. Merci pour ce que tu nous as dit, merci parce que tu recherches nos cœurs. Seigneur, c'est toi qui es venu ouvrir les yeux des cœurs de tes disciples sur le chemin d'Emmaüs pour qu'ils te reconnaissent, qu'ils te découvrent différemment et qu'ils reçoivent ton esprit qui fait d'eux des témoins. Et nous te remercions encore dans cette convention. Seigneur, fais de nous des témoins, embrase-nous au nom de Jésus. Amen. Alléluia, béni soit Dieu. Je voudrais vous présenter deux de mes livres que vous pourriez trouver au fond, le stand où se trouve mon épouse Isabelle. Le premier s'appelle « Branché sur la vie » et ce livre-là est un livre qui vous partage toute ma vie de prière. D'ailleurs, dedans, vous trouvez aussi mentionné à la fin quelques prières spéciales, dont la prière du WC dont je viens de parler, mais il y a quelques autres. Il y a par exemple un enfant qui était extrêmement zélé. Parce que le zèle ne suffit pas dans la prière. Un jour, un enfant était dans une réunion de prière et il priait. Le pasteur était tout heureux de le voir, l'enfant prier. Tokyo, 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 Tokyo. C'était aux États-Unis. Alors le pasteur vient le voir et dit, mais je t'ai vu tellement zélé. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi tu disais sans arrêt Tokyo, Tokyo? Ben, j'ai eu un contrôle en géo et j'ai prié que Tokyo soit la capitale de France. Voilà comment parfois certaines prières sont inexaucées malgré le zèle. Le zèle ne suffit pas. Il y a des choses qui nous aident à prier. Donc certains me disent, mais c'est quoi Philippe ta vie de prière? Alors, simplement, après 25 ans de vie chrétienne et de vie de prière, comme je vous disais hier, pendant 25 ans j'ai appris à prier. Je ne suis pas quelqu'un de supra-spirituel. Moi j'aime la vie, j'aime mon Dieu, mais j'aime la vie. Quand c'est vraiment la vie avec Dieu, j'aime. Je déteste tout ce qui est mysticisme. Je déteste toute la vie dans laquelle les gens touchent pas terre. Certains, j'ai envie de leur dire, il y a longtemps que tu n'as pas visité la terre, ça te ferait du bien. Mais par contre, j'aime la présence de Dieu, je peux vous dire. Et j'ai appris vraiment à faire de la présence de Dieu une des priorités ou la priorité de ma vie, la priorité numéro un. Ça fait 27 ans que je n'ai pas connu de passer 24 heures sans prendre un moment à part avec Dieu. Des moments c'est extraordinaire, des moments ça l'est moins. N'empêche, l'habitude est plus puissante que le désir et l'habitude qui est alliée à l'intimité fait une vie de prière réussie. Alors dans ce livre, « Branché sur la vie », vous allez découvrir le pourquoi de la prière et ce que ça fait dans nos vies. Et surtout, chaque chapitre termine avec un atelier de mise en pratique. Donc c'est pas « il faut prier », parce que ça, on le sait trop, mais c'est « comment prier ». Et à la fin, il y a chaque fois un petit chapitre qui vous aide à dire « comment vous allez vivre votre parcours de prière. Je vous promets une chose, vous faites ça pendant 2 mois, si jamais votre vie de prière n'a pas changé, je vous rembourse le livre. Parce que j'ai appris une chose, quand pendant 2 mois on s'applique à quelque chose de pratique dans nos vies changent. Un jeune de mon église m'a dit, Philippe, j'ai pris ça et ça a mis ma vie de prière en ADSL. Pour tous ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire ADSL, c'est du haut débit. Sinon, avant j'étais en petit débit. Et ce matin, je voudrais partager en vous présentant un autre livre, parce que c'est là-dessus que je vais prêcher ce matin et demain aussi, demain matin. Ce livre s'intitule « Quelle marque votre christianisme ?» Alors certains vont dire, ben nous on est de la marque protestante et nous on est de la marque catholique. Non mais je ne parle pas de ça, ni Danone ni Yoplait. Je parle, quelles marques de Jésus sont dans ta vie et dans ma vie, dans notre caractère, comme Paul disait, que personne désormais ne me fasse de la peine, je porte sur moi les marques de Jésus-Christ, les cicatrices de la marche avec Jésus. Les marques de Jésus. Quelle marque votre christianisme? Comment Christ imprime son caractère dans nos vies? Et donc ce matin, ce sera le premier chapitre de ce livre ici, parce que je crois que dans les temps où nous sommes pour être des témoins, les témoins que le Seigneur va utiliser sont des personnes qui ont été marquées par Dieu. Donc dans un premier temps, je vais prêcher sur 3 points, et puis faire un moment de ministère avec vous, et puis ensuite terminer le message et vous proposer de se mettre par petits groupes de 3 et je vous donnerai des questions à partager honnêtement par groupe de 3 pour terminer cette matinée. Ça va, le menu vous plaît? Tant pis, c'est quand même ça le menu. On mange, merci Seigneur. Mais Dieu va vous bénir, vous allez voir, il va me bénir avec. Donc, les personnes que Dieu va utiliser pour passer à l'autre bord, dans l'église de ce 21e siècle, nous sommes en mutation, nous sommes en train de bouger, nous quittons Charismatic Park pour aller à l'autre bord de ce que Dieu nous demande de vivre et d'entrer dans l'actualité du Seigneur aujourd'hui. Dans cette réforme, ce n'est pas une réforme de style ou de structure avant tout c'est une réforme de cœur. Avant tout, ce que Dieu veut réformer, ce sont nos cœurs, nos intelligences, notre façon de marcher avec lui. Et la première chose que je voudrais vous dire sur les marques que les personnes vont utiliser en ce 21e siècle, ce sont des personnes qui ont un piercing. Je voudrais pas, vous savez ce que c'est un piercing? Un piercing, c'est un truc qu'on vous plante dans l'oreille, certains le mettent dans le nez, etc. Donc, les personnes que Dieu va utiliser dans ce 21e siècle, dans l'église de Jésus, sont des personnes qui ont un piercing. J'allais dire vraiment, il commence mal la journée, lui. Attends, je vais expliquer. La façon dont le peuple d'Israël reconnaîtra Jésus, il est dit ceci dans Zacharie 12, verset 10, « Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Et ils me reconnaîtront. Ils reconnaîtront, ils verront celui qu'ils ont percé. » Comment Thomas, vous savez Thomas le dépressif, celui qui touchait une batterie, elle était déchargée. Comment ce Thomas-là a-t-il reconnu Jésus? Si je peux mettre mon doigt dans la marque des clous, là où il a été percé, je saurai que c'est Jésus-Christ. Comment un disciple ou un esclave, un serviteur dans l'Ancien Testament qui aimait son maître, et qui disait, tu sais, je t'aime tellement que je veux plus te quitter. Comment est-ce qu'on le reconnaissait? Il demandait à son maître, amène-moi sur la porte, l'angle de la porte, et avec le poinçon, perce mon oreille. Et la marque qui était sur lui, c'est que maintenant il avait un piercing, il était percé ici pour dire, j'appartiens à mon maître jusqu'à la fin de ma vie. Alors, bien entendu, je ne vais pas parler du piercing que tu peux mettre sur ton oreille, sur ton sourcil. Je m'en fiche que tu en aies un ou pas. Ça fait partie de ton style ou pas de ton style. Il y a des jeunes ici, si vous voulez mettre un piercing, c'est votre affaire. Pour moi, le plus important est d'avoir un piercing dans notre caractère. Dieu s'intéresse à notre caractère, à nos vies, plus qu'à notre aspect extérieur, bien sûr. Donc, je parle ici des marques de Jésus-Christ. Et la première, c'est celle-ci, les percées que le Seigneur va choisir. L'esclave, Exode 21, versets 5 à 6, « J'aime mon maître, je ne veux pas sortir libre, je ne veux pas m'éloigner de lui. Alors son maître le conduira devant Dieu. et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, ainsi le serviteur sera pour toujours à son service. Aujourd'hui, il y a besoin d'hommes, de femmes, des jeunes gens qui décident de venir à Dieu et de se faire percer, de dire « Seigneur, perce-moi, quelles que soient les marques de ce que tu vas faire dans ma vie, je vais continuer avec toi. » Et je vais vous dire, les cicatrices dont Paul parle, les cicatrices que je porte sur mon corps prouvent que j'appartiens à Jésus. Galates 6, 17, la version Bible français courant. Les cicatrices que je porte, j'aimerais vous poser la question, quelles cicatrices portez-vous comme la marque, comme l'endroit où vous êtes percé, qui est la preuve que vous appartenez à Jésus? Est-ce qu'il y a au-dedans de vous des marques de vos cicatrices? Moi, je dis toujours, nous sommes guéris dans les meurtrissures de Jésus et nous sommes édifiés dans les cicatrices de nos frères. Vous savez, souvent, quand j'ai des hommes de Dieu expérimentés devant moi, ce que je demande toujours, c'est quoi les 2-3 moments les plus durs de ta vie? Qu'est-ce que Dieu a marqué en toi et comment t'en es sorti? J'aime ça. J'aime entendre les cicatrices. Et vous savez, nous sommes dans une génération découragée, déprimée. Les gens savent qu'ils sont pécheurs aujourd'hui, mais ils veulent savoir quoi faire de leur péché. Ils savent que la vie sur terre n'est pas toujours très facile. On ne croit plus aujourd'hui que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Les années d'utopie, les années 70 sont finies. Nous avons à traiter avec une génération découragée, déprimée, qui a perdu le goût de la vie et qui attend aujourd'hui de dire « Mais est-ce qu'il y a des gens qui ont traversé les mêmes épreuves que je traverse, qui ont été percés aussi dans leur vie et qui pourtant manifestent de la lumière, manifestent de la grâce, manifestent de la joie de vivre malgré cela? C'est pourquoi tes épreuves vont devenir tes qualifications. Mais si tu n'es pas percé, tes dons, ton chant en langue, tes petits sons charismatiques, tout ce folklore-là ne fera pas l'affaire. Les gens, comme Thomas, voudront mettre le doigt sur les marques, sur les piercings de ta vie, et ce sont ces piercings-là qui vont faire la différence. Je vais demander juste si je peux avoir un tout petit peu plus de son, comme ma voix commence à être un peu irritée depuis hier. Non, vous trouvez que je parle fort? Vous trouvez que je parle fort? Bah, vous savez, je suis né en Afrique, donc là-bas on parle encore toujours un peu plus fort, mais ça va, je respecte vos oreilles. J'espère percer vos oreilles par votre tympan. La façon dont je fais face aux épreuves, c'est ma façon de faire mes preuves. Et au moment où je fais face aux épreuves, je veux apprendre à dire, même dans l'épreuve, Seigneur, je t'offrirai un sacrifice de louange. Même dans l'épreuve, je dirai, la joie du Seigneur est ma force. Même au moment où mes larmes couleront, je dirai, tu es toujours mon espérance. C'est toujours sur toi que sont mes yeux. Dans l'épreuve, plus tu parles de lui, plus tu t'en sors. Dans l'épreuve, ton humilité, c'est pas que tu penses à toi et combien tu es minable. Dans l'épreuve, c'est pas que tu penses d'une façon inférieure à toi-même. Ce qui compte, c'est que tu penses un peu moins à toi-même. Non pas un peu moins de toi-même. Ça sert à rien de penser moins de toi-même. Ça ne t'élèvera jamais. Pense moins à toi-même et commence à penser à lui. Commence à lui dire, Seigneur, quelles que soient mes circonstances, tu es toujours digne de louange. Tu es toujours mon espérance. Même au moment où les larmes sont là, les moments où, comme Liliane nous disait hier matin, à un moment donné, elle nous a dit, cette épreuve, c'est marqué dans ma chair. Et je dis, moi, j'étais à ma place, j'étais à peu près là où elle est aujourd'hui. Et je dis, oui, Liliane, tu as eu un beau piercing de Jésus et c'est pour ça que tu es belle. Parce que la lumière ne vient que dans les gens qui ont les piercings. Parce que c'est là que la lumière du Seigneur commence à te traverser. Alors, dans ces moments-là, tu commences à offrir au Seigneur ton amour, ton espérance, ta foi. Tu continues de confesser qui il est pour toi. Vous savez, c'est pas simplement de pleurnicher qui va faire la différence. Je dis pas qu'on verse pas de larmes, mais les pleurnichards n'hérite pas la bénédiction qu'il y a au moment où on est percé. Et pourtant, il y a des douleurs. Il y a des douleurs à ce moment-là. Mais on a parfois besoin de ces douleurs parce que la méchanceté est ôtée. Vous savez, il y a au-dedans de nous une méchanceté insoupçonnée. Et Proverbe 20, verset 30 nous dit « Des blessures douloureuses peuvent guérir de la méchanceté. » Seigneur, guéris-moi. On entend ça dans certains milieux, peut-être même ici. Seigneur, guéris-moi. Oui, tu sais, des blessures douloureuses peuvent guérir. La façon dont Dieu veut nous guérir de la méchanceté, c'est de nous blesser autrement. Et je sais ce dont je parle ici, parce que il y a 4 ans, on a commencé une série un peu spéciale dans notre famille. Nous avons 6 enfants, et l'aînée de nos filles était très engagée avec le Seigneur. Elle était même en train d'être équipière avec le groupe de jeunes dans l'église. Elle faisait des week-ends avec des ados. Elle a même prêché avec moi dans des conventions de jeunes à Paris et ailleurs. Et il y a 4 ans, au mois d'août, on reçoit une lettre de sa part. Et puis elle nous dit, voilà, un carrefour, j'ai rencontré l'amour, c'est quelqu'un. Il est croyant mais pas converti, c'est-à-dire pour moi, que quelqu'un aille en enfer en croyant qu'il y a un Dieu ou pas, ça change pas grand-chose. Les démons aussi le croient et ils tremblent. Donc j'ai dit, mais s'il n'est pas réconcilié avec ce Dieu, ça change rien. Elle a voulu me faire passer quelque chose ici, mais j'ai pas avalé ça. Et puis elle m'a dit, ben voilà, j'ai décidé de partir, déménager, d'aller dans une autre région de France, de rester avec lui. Je lisais ça, c'était notre fille bien-aimée, elle est talentueuse, elle a de la personnalité, elle avait des dons spirituels souvent, plusieurs fois des prophéties tellement fortes pour ma vie, que j'en revenais pas. Je dis, mais c'est pas possible. Et vous savez, une chape de plomb tombait dessus, et les larmes partaient. Et pendant des mois, je continuais à prêcher la parole de Dieu. Non pas en trichant, je disais ce qu'on vivait. Je l'ai dit dans l'église, je l'ai dit partout. Mais j'ai dit, je ne peux pas approuver son péché. Je garde l'amour pour elle, mais pour son comportement et son péché, c'est non. Et un non total et radical. Néanmoins, je ne changerai rien à mon amour pour mon Dieu et à mon service pour mon Dieu. Et quand tu pleures, mais que tu continues à faire ce que tu fais normalement, c'est compté comme un acte héroïque devant Dieu à ce moment-là. Et je vous assure, des moments, les larmes partaient toutes seules. Mais, 1 an plus tard, sa petite sœur fait exactement la même chose. Belote et rebelote derrière. Clac, nouveau piercing. Commencez à me dire, bientôt, j'aurai plus de place sur les oreilles. Parce que quelques temps plus tard, un petit frère a fait exactement la même chose. Et quelques temps plus tard, il y a un peu plus d'un an, un grand frère a fait la même chose. D'une façon terrible. Et sur 6, on en avait 4. Qui était utilisé par Dieu pour nous percer. Je sais que c'est le péché dans leur vie, etc. Mais vous savez ce que j'ai vu à ce moment-là? J'ai vu le Seigneur sonder mon cœur. Et je voyais qu'il y avait des choses méchantes qui étaient cachées dans mon cœur. Et ces choses méchantes, le fond de mon cœur ne paraissait qu'au moment où mon cœur était percé. Au moment où le cœur est percé, c'est là que les blessures douloureuses peuvent guérir de la méchanceté et les coups viennent assagir le fond du cœur. Et il y a quelque chose de la suffisance, ou de l'arrogance, ou des fois tout à fait autre chose, même des choses insoupçonnées dans la méchanceté. Je voyais du mauvais jus sortir de mon cœur. Et je dis, mais Seigneur, c'était là, et je ne savais pas, et il a fallu que tu perces pour que je voie ces choses. Et on commence à avoir des moments de restauration. Notre fils, le plus grand qui est parti de travers, est maintenant revenu dans de meilleures voies, son cœur est réconcilié avec Dieu, avec nous. On a notre fille, la toute première, qui commence à... Elle m'a dit, je lui ai offert ce livre maintenant, elle est mariée avec ce garçon, puis ils habitent Montpellier. Je lui ai offert ce livre, elle m'a dit, papa, je l'ai dévoré en une après-midi. Je connais personne qui a fait ça. Puis elle vient à la maison, puis un jour, elle avait même un petit souci conjugal, elle me dit, tu sais papa, je sais pas à qui je peux parler de ce souci conjugal, mais je sais que toi, tu peux m'aider. Je dis, ben viens. Et je vois qu'un retour est en train de s'amorcer. Et puis, elle me pose sans arrêt des questions sur la foi. Elle est venue la semaine dernière à la maison m'emprunter 5 livres dans ma bibliothèque, des livres de foi. Et je dis, Seigneur, tu es en train de faire quelque chose. Et je bénis Dieu. Et je garde la foi, même pour les autres. Mes enfants seront tous disciples de l'Éternel et grande sera leur prospérité. Et il y a des parents ici, vous avez été percés comme je suis percé, comme on est percé quand on a des fils prodigues, mais gardez simplement votre confession de foi intacte. Continuez à rester sur ce que la parole de Dieu dit de vous et de vos enfants. Ne laissez pas au moment de l'épreuve, ne laissez pas les circonstances dicter ce que vous croyez, mais continuez à dicter la parole de Dieu sur les circonstances, et les circonstances vont obéir. Il y a toujours une lutte entre la réalité et la vérité. La réalité, c'est ce que tu vois. La vérité, c'est ce que la parole de Dieu dit. ta confession de foi va faire basculer les choses, soit du côté de la réalité, soit du côté de la vérité. Quand tu confesses la réalité que tu vois, c'est la réalité qui va devenir dans ta vie. Oh, on n'arrivera pas à prendre ce pays, disaient les espions en Israël. Et Dieu dit, je ferai selon ce que vous avez dit, selon ce qui est sorti de votre bouche. Ta bouche peut déterminer si la vérité de la parole va transformer la réalité visible. Ta bouche peut transformer la réalité visible quand tu crois la parole et que tu restes ferme dessus, sans pleurnicher. Tu pleures, mais tu pleurniches pas. Tu te plains pas. Tu dis pas simplement, oh, je suis si blessé, j'ai si mal. Oui, je sais. Je sais, mais les blessures douloureuses peuvent guérir le cœur de la méchanceté. Laisse-toi transformer. Dieu vise autre chose que notre petit bonheur tranquille et immédiat. Il a une destinée plus longue. Et tu sais, personne ne pourra consoler mieux une maman qui est en train de vivre cette épreuve-là. Une maman qui pleure parce qu'elle ne sait pas où est son fils dans le monde, que la maman qui a déjà pleuré et qui a vu son fils revenir. Donc tu es en train de prendre des qualifications. Tes épreuves sont tes galons. Quand Paul parle de ses diplômes, il nous fait pas étalage de tous ses diplômes en théologie, mais il dit, j'ai été naufragé, j'ai été lapidé plusieurs fois. Il vient pour se glorifier de ses afflictions. Et il dit ceci, nous nous glorifions de nos afflictions, nous nous glorifions de nos épreuves, parce que la persévérance dans l'épreuve produit l'espérance. Et cette génération a un besoin d'espérance. Cette génération a besoin d'entendre des hommes et des femmes qui portent sur eux les marques des blessures de la vie, mais ils avaient quelqu'un au-dedans d'eux qui a pensé, qui a relevé, qui a guéri. Ils ont mis leur foi en Jésus-Christ. Tu traverses les mêmes épreuves que les sans-Dieu, mais Dieu est avec toi. Mais Dieu est avec toi. Et à la fin, tu es marqué, et c'est tes marques qui rendent ton message, ton évangile crédible. Les gens ne veulent pas entendre quand tu vas dire, Jésus rend heureux, il enlève tous les problèmes, etc. Ils disent, écoute, moi j'ai déjà acheté de la lessive avec ce genre de publicité, ça marche pas mieux qu'une autre. Hein. Là, on m'a déjà fait le coup de la lessive qui lave blanc, plus blanc que blanc, et même Coluche en a parlé, mais en réalité, ce n'est pas vrai, elle lave tout à peu près de la même façon. Donc ton histoire de si tu viens à Jésus, là, là, baratin. Par contre, quand tu dis, je sais ce que c'est que de traverser la vie avec les mêmes épreuves, et je peux vous raconter mon histoire, et tu racontes l'histoire de tes cicatrices, dans tes cicatrices, ils vont être guéris. Ils vont reprendre espoir. Si tes cicatrices maintenant sont guéries, si tu les racontes non pas en disant simplement, tu vois combien grandes sont mes souffrances, parce que alors là, c'est du Thomas, tout craché, allons mourir avec lui, hein, c'est... Ah oui, pleurons ensemble, hein. Soyons toutes des Maria Dolores. Hein? Alors qu'en réalité, dans cette souffrance, nous gardons le cap sur la parole de Dieu et l'espérance est là devant nous. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Ce matin, je vais prier dans quelques minutes pour tous ceux qui veulent demander au Seigneur un piercing, mais un vrai de vrai. Alors après, au moment où ça perce, tu sais, c'est pas juste, ça va. Non, ça va faire mal. Donc, écoutez, si après vous voulez dormir, après mon message, dormez, mais écoutez bien ça, au moins. Ne vous levez pas ce matin juste pour dire, ah, tout le monde se lève, ben je me lève. Si vous vous levez, ça veut dire, Seigneur, je t'aime tant que quoi qu'il arrive dans ma vie, je ne te quitterai pas, je veux avoir le piercing du serviteur qui dit jusqu'au bout, Seigneur. Rien ne pourra me séparer de ton amour. Je sais en qui j'ai cru et tu vas percer ma vie, mais j'ai décidé. Je suis chrétien maintenant, je mourrai chrétien jusqu'à mon dernier souffle. Je donnerai gloire à mon Dieu. Alors s'il y a cette espèce-là ce matin, vous avancerez ici. Je vais demander à quelques jeunes d'aller chercher les poinçons et puis on va... Oreille après oreille, hein. Non, non, vous inquiétez pas, on va pas faire ça physiquement. Deuxième marque dont je veux parler ce matin, attention, c'est un mot nouveau. Je voudrais dire, les personnes que Dieu va utiliser au 21e siècle, vous allez me pardonner pour ce mot nouveau, ce sont les métanoïés. Je sais pas comment on peut le dire autrement, mais moi je crois que Dieu va utiliser des gens qui sont des métanoïés. La métanoïa étant la repentance, mais bien souvent dans notre monde, charismatiques ou dans lesquels on a mis aussi en avant la démarche émotionnelle, et il n'y a aucun problème à ça. Les émotions doivent être avec. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Tout doit être là. Donc les émotions sont là dans l'âme, mais aussi la pensée doit être là. Et le renouvellement de la pensée, c'est ça la métanoïa. La métanoïa, un repentant ou un repenti n'est pas quelqu'un qui vient dire « Oh Seigneur, pardon !» C'est quelqu'un qui dit « Waouh, j'ai eu tort !» Vous savez, une prise de conscience de dire « Mais je voyais de travers, j'ai eu tort, je vois les choses différemment aujourd'hui !» Tu sais, les larmes ne m'impressionnent pas, mais quelqu'un qui dit « J'ai eu tort !» J'ai eu tort, je voyais les choses de travers, j'ai eu tort. La reconnaissance de tort devant Dieu est une marque de repentance, une vraie métanoïa, et là aussi dans l'intelligence. Et nous avons besoin de cette vraie humilité. Combien de maris, on est quoi? On est le mi-juillet bientôt, hein? Combien de maris depuis début juillet ont dit à leur femme « j'ai eu tort » ici ce matin? Je bois à la santé des maris. Ou alors, mesdames, vous êtes vraiment tombés sur les gros lots. Vous êtes tombés sur les saints. Ma femme n'a pas eu de bol, elle est tombée sur moi. Je sais, quand je prêche, il y a plein qui disent « Ah, je suis content de l'avoir comme prédicateur, mais pas comme mari, celui-là. » Là, je peux te comprendre. Mais n'empêche, une chose que j'apprends, c'est dire « J'ai eu tort. J'ai eu tort. J'ai eu tort. J'ai eu tort. » Vous savez quoi? Tout à l'heure, quand on va se mettre par petits groupes de trois, j'aimerais bien que vous racontiez. Depuis janvier, quand même, rassurez-moi, depuis janvier, vous avez péché. Vous avez pris conscience d'un péché depuis janvier? Si tel est le cas, vous pourriez raconter à quelqu'un qu'elle a été au moins une repentance, ta dernière repentance, dernière conviction d'avoir eu tort, une mauvaise attitude, mauvaise compréhension, mauvaise approche de la relation, d'avoir eu tort au moins une fois depuis janvier. Parce que sinon, on est théorique. « Ah, oh, on est pécheur. Ah, oh, on est pécheur. » D'accord, qu'est-ce que tu as fait? Oh, on est pécheur. Nous, on parle toujours en image, les chrétiens, pour essayer de devenir réel. D'accord? Quand Jean-Baptiste parle du péché et de la repentance, vous savez, il avait un très bon modèle. La Bible nous dit, il disait « Abaissez les montagnes, relevez les vallées, redressez ce qui est tortueux, aplanissez ce qui est raboteux. » Ça veut dire quoi? Non, c'est pas qu'il voulait que tout le monde fasse de la topographie. Souvent, nous, on se contente de l'image. Ça veut dire quoi? On est vraiment bizarre dans le monde chrétien. On a une image et on s'en contente. Comment on concrétise ça? Il me conduit dans les verts pâturages, ça veut dire que les chrétiens broutent la pelouse de l'église. Hein? Comment on concrétise? Ça veut dire quoi, les verts pâturages? Et ici, ça veut dire quoi, ces montagnes, ces vallées? Les montagnes, dans nos vies, c'est tout ce qui s'élève. Ça veut dire l'orgueil, la colère, la haine, la rébellion, la contestation, la jalousie, la soif de pouvoir, l'orgueil intellectuel, etc. Tout ce qui s'élève dedans toi, c'est une montagne. Et toute chair verra la gloire de Dieu quand ces montagnes seront à plat. J'ai remarqué une chose, c'est que ce genre de montagne repousse. Je t'assure. Tu mets ça par terre, quelques mois après, si t'as pas entretenu, la montagne a repoussé. Les vallées, c'est quoi? C'est tout ce qui fait que tu es tellement profond que tu es toujours au fond du trou. Au fond du puits. Du fond de l'abîme, Seigneur, je crie vers toi. Oui, c'est bon, mais n'y reste pas, d'accord? Tu peux crier vers moi du fond de l'abîme, n'y reste pas. Relevez les vallées du désespoir, les vallées du pessimisme, les vallées de la pitié de soi, les vallées de la mélancolie, les vallées de la timidité. Oui, la timidité, c'est aussi un péché. Ce n'est pas un esprit de timidité. Qu'est-ce que c'est un péché? Ce n'est pas un acte qu'on commet, c'est une attitude décalée par rapport à la volonté de Dieu. Ça, c'est un péché. Le péché est une attitude décalée par rapport à la volonté de Dieu. Si Dieu me dit « Réjouis-toi », mais que ma timidité m'empêche d'entrer dans la joie, ma timidité me rend décalée par rapport à la volonté de Dieu. Alors, oh, je suis en prison là, je suis pas libre. Seigneur, délivre-moi de cette vallée, relève-moi de cette vallée. À ce moment-là, quand tu combles ces vallées de la timidité, du désespoir, du rejet, etc., toutes ces choses qui font que tu es au fond du trou, tu es en train de te repentir des attitudes, pas simplement des actes. Les attitudes, c'est plus profond que les actes. Et puis, quand il dit ce qui est tortueux, alors les mensonges, pardon, on est dans le sud, les exagérations. les fraudes, les vols, y compris les dîmes qu'on ne donne plus au Seigneur, les offrandes, les fraudes fiscales, toutes ces choses-là, les petites tricheries à droite, à gauche que l'on a dans nos vies. Je ne sais pas pour vous, hein. Je ne parle pas pour vous, je parle pour les luminaires et pour vos chaises. Toutes les choses tordues dans nos vies, les perversions sexuelles. Ouais, ouais, monsieur, quand tu regardes sur Internet dans les sites bizarres, ça produit au-dedans de toi quelque chose de tordu. L'acte en lui-même est moins grave que l'attitude qu'il finit par produire en toi. Parce que quand les vallées sont relevées, les montagnes sont abaissées, les chemins tortueux sont redressés, alors toute chair verra la gloire de Dieu. Et nous verrons la gloire de Dieu si nous acceptons dans nos vies de faire ce parcours de repentance de temps en temps. Moi, je vous le dis, une fois par mois, c'est au minimum la bonne visite d'entretien. Tu sautes un repas et tu dis, tiens, et si Jean-Baptiste passait par là, comment ça se passerait entre lui et moi ? Hein ? Si j'invitais le ministère de Jean-Baptiste dans ma vie, puis tu vas sauter un repas et tu vas regarder les montagnes dans ta vie, tu vas dire, oh mince, celle-là, elle a repoussé. Oh, cette vallée, pourtant je l'aimais bien, cette vallée. Ça, il y a des gens qui aiment la mélancolie. Moi, j'ai été élevé, abreuvé au lait du spleen. Eh oui, et du négativisme. Vous savez, l'évangile selon saint Renaud. Quand je pense à la misère et l'absinthe au-dedans de moi, hein, quand mon âme s'en souvient, Jérémie, qui dit ça. Non, il y a une chose que je veux repasser dans mon cœur, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Et de garder cette espérance et de libérer, d'être libéré dans mon cœur du cynisme, du négativisme, de quelque chose de mélancolique. La mélancolie nous prive de la force que le Seigneur nous donne. La joie du Seigneur devient ma force. C'est un choix que d'entrer dans la joie. C'est un choix. La Bible nous dit, réjouissez-vous. Si tu étais victime de la joie, jamais Paul ordonnerait de la part du Seigneur, réjouissez-vous, entrez dans la joie. Et donc nous avons à faire cette démarche-là. De temps en temps, je vais vous inviter à faire cette démarche. Et comme ce matin, notre frère chantait ici tout à l'heure, « Seigneur, j'ai même peur de ta lumière, mais je l'accueille quand même. » Eh bien, tu fais bien. Parce que la Bible nous dit que le Seigneur mettra en évidence les choses cachées dans les ténèbres. Et il manifestera les intentions des cœurs, pas les actes qu'on a commis. C'est superficiel un acte. Les intentions de nos cœurs. Tous, en effet, nous comparaîtrons devant le tribunal de Christ. Et il nous faudra tous paraître à découvert devant le tribunal de Christ, afin que tout soit révélé. C'est pourquoi, régulièrement, viens et vis comme un métanoïé. Vis comme quelqu'un qui ne regarde pas juste de sauver les apparences, mais qui dit, sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Connais mon cœur, que je sois enfant de lumière, restant dans cette lumière. Et ainsi, je vais marcher dans la crainte du Seigneur. Alors, quelle expérience de métanoïa vous avez fait depuis ces 6 derniers mois? J'aimerais que tout à l'heure, dans le petit groupe, vous partagiez cela. Et c'est pour ça, je crois, que les métanoïés vont être convaincus de la parole de Dieu et vivre de la parole de Dieu pour vivre contrairement à cette génération qui est une génération de flou, de tiède, de gris, de tolérance, de péché. C'est quelque chose dans lequel le chrétien va marcher à contre-courant. Plus la confusion va augmenter, plus le peuple qui connaît son Dieu marchera dans la lumière. Si les ténèbres couvrent la terre, sur toi l'Éternel se lève et sur toi sa gloire apparaît. Accueille la lumière de Dieu dans ta vie. Décide d'être enfant de lumière. Décide que ton œil soit éclairé, mais pas seulement, ton corps tout entier soit dans la lumière. Que la lumière de Dieu passe. Fais une visite médicale à la lumière de Dieu. Viens totalement faire un scanner à la lumière de Dieu. Dis, Seigneur, passe, mets ta lumière sur mes pensées, sur mes yeux, sur mes oreilles maintenant. Sur mon nez, sur ma bouche, sur ma langue, ta lumière sur ma langue. Là, tu restes un moment, généralement. Seigneur, mets ta lumière sur mes épaules, l'endroit où je porte les charges, sur mon cœur, sur mes entrailles, là où ça s'est rétréci. Mets ta lumière sur ma vie sexuelle et affective. Mets ta lumière sur mes pieds, sur mes genoux qui auraient tendance à chanceler. Sur mes pieds pour qu'ils suivent des voies droites. Lumière de Dieu, je t'accueille dans ma vie. Et quand tu fais cette visite médicale à la lumière de Dieu, tu restes enfant de lumière. Et la puissance de Dieu est en toi. L'occultisme et le prince des ténèbres n'a autorité que là où il y a des ténèbres. Mais là où est la lumière, là tu as autorité sur lui. C'est pourquoi viens à la lumière. Et donc je voudrais partager mon troisième et dernier point avant ce moment de ministère avec vous. Je veux dire que les marques des personnes que Dieu va utiliser sont les libérés. Et je fais l'enchaînement ici en disant d'abord des gens libérés de tout secret douloureux. Il y a ici encore ce matin des personnes qui portent un secret douloureux. Et chaque fois que tu voudrais t'édifier dans la foi et prendre autorité sur l'ennemi et sur les problèmes dans ta vie, sur la maladie, chaque fois que tu voudrais prendre autorité avec l'assurance que le Seigneur te donne, il y a une voix qui vient te parler, qui dit, non mais toi tu peux pas. Et tu, ah oui, c'est vrai. Parce que tu avais fait ça. Ah oui, c'est vrai. Tu es captif d'un secret douloureux. On raconte cette histoire en Afrique. Il y avait deux enfants, deux ados, qui aimaient jouer quand le papa était absent. Ils aimaient rentrer dans le poulailler. Et leur jeu favori, c'était de se jeter les poulets l'un sur l'autre. Alors, ils sont arrivés au poulailler, papa était à la ville, et ils ont pris les poulets, puis ils se sont jetés l'un sur l'autre, etc. Puis ça faisait une belle foire dans le poulailler. Et à un moment donné, il y avait un poteau, c'était pas à gagner pourtant, mais il y avait un poteau aussi. Et donc, un a pris le poulet pour jeter sur l'autre, et bam, le poulet, il s'est pris le poteau. Il s'est dit, raide, mort. Oh mince. Alors, il a dit, tu dis pas à papa. Et puis, il a enterré le poulet. Le papa revient. Et le papa dit au petit frère, dis, tu vas aller au puits chercher de l'eau là-bas. Le petit frère, il vient voir le grand, il dit, hey, tu vas chercher de l'eau là-bas. Il dit, mais non, papa l'a dit à toi. Non, mais tu y vas. Tu te souviens du poulet? Ouais, alors le grand, il y va. Puis il revient, puis il dit, papa dit, bah, j'ai vu que ton frère est allé chercher l'eau, donc toi, tu vas aller sur la colline, tu ramènes le bois pour le feu ce soir. Le petit frère va voir le grand. Hey, tu vas aller sur la colline, tu ramènes le bois. Ah non, moi je suis déjà allé chercher de l'eau. Oh oh, remember the chicken. Souviens-toi du poulet. Hein? Remember the chicken. Ok, donc il va chercher le bois. Et puis, pendant des semaines et des semaines, sans arrêt, le petit, chaque fois qu'il a une corvée à faire, il vient voir le grand. Il dit, tu y vas? Remember the chicken. Quelques semaines après, le grand reçoit une fête parce que tous les jeunes du village vont faire la fête un soir et le grand est invité, il a l'âge, le petit n'a pas reçu l'invitation. Et le petit dit au grand, super, je vais à la fête. Et le grand dit, pourquoi, t'as une invitation? Oui, c'est celle-là. Je dis, ah non, c'est la mienne. Ah non, 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 tu vas me la donner. Ah, il n'est pas question que je te la donne. Remember the chicken. Ah, il perdait ses droits, il devenait esclave. Et chaque fois, pendant des mois, qu'il avait un privilège, le petit lui prenait en lui disant « Remember the chicken ?» ou alors il lui faisait faire les corvées à cause du poulet. Secret douloureux. Un jour le grand décide « J'en ai marre de vivre comme esclave. Il y a trop longtemps que je porte ça sur moi. » Il dit « Papa, je veux te voir. » Il vient. « Qu'est-ce qu'il y a mon fils ?»« Tu sais, il y a quelques mois, tu es allé à la ville, on a fait notre jeu favori, tu sais que tu n'aimes pas, on est rentré dans le poulailler, on s'est jeté les poulets. » Et je te demande pardon. Mais en plus, en jetant un poulet, il s'est pris le poteau, il est mort et on l'a enterré. Pardon papa, je le referai plus. Le papa dit, ah mais je te félicite d'être venu confesser ça. Mais tu sais, ne te tourmente pas, c'est qu'un poulet. Elle lui dit, comment? Ça fait des mois que je vis sous l'esclavage. Chaque fois que qu'il y a une corvée à faire, c'est moi qui l'a fait à cause de Remember the Chicken. Et chaque fois que je pouvais aller à une fête, chaque fois que je recevais un cadeau, le petit me prenait ça. Il m'a tout pris. Il m'a piqué ma vie à cause de ce secret caché, douloureux. Eh bien, moi, je peux vous dire aujourd'hui, il y en a ici. Chaque fois que vous voulez vous élever comme enfant de Dieu, dans la foi, la plénitude de la joie, votre assurance en Christ, il y a cette voix de l'ennemi qui vient dire, hein, tu peux pas toi, remember the chicken. Et toi tu te souviens du chicken, du poulet. Quand j'ai raconté ça la première fois à mon église, j'ai un jeune homme de mon église qui est marseillais d'origine, il m'a dit, ça marche aussi avec les éléphants? J'ai dit, ça doit marcher aussi avec les éléphants. Lui il devait avoir un truc balèze là. Mais la bonne nouvelle aujourd'hui pour vous, c'est que tu es un éléphant, un chicken ou un poulet ou un hippopotame, ça marche. Et tu peux venir confesser ce secret douloureux pour toi. Ça peut marcher pour toi aussi. Et ne garde pas ça plus longtemps. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier. Et ensuite, une fois que c'est confessé, c'est confessé. Le sang de Jésus l'a purifié. Chaque fois que l'ennemi veut venir et t'accuser de ça, tu dis non, non. Je me rappelle pas du poulet. Par contre, toi, si tu viens me parler de mon passé, est-ce que tu veux que je te cause de ton avenir? Est-ce que toi, tu te souviens? Est-ce que tu te rappelles qu'il est écrit, Apocalypse 20:10, tu finiras dans les temps de feu? Et si tu m'embêtes, je vais commencer à écrire Apocalypse 20:10 sous mes chaussures, et puisque tu es sous mes pieds, chaque fois que tu marches, je te ferai lire ton avenir. Donc reste tranquille. Généralement, ça calme. Parce que vous prenez votre position en Jésus-Christ. Demain matin, je vais vous parler de cela. Les plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Une génération qui sort la tête de l'ombre et d'une fausse humilité et qui entre dans l'héritage, la destinée, la dignité que Dieu veut nous donner. C'est pourquoi soyez libérés des secrets douloureux. Soyez libérés aussi d'une image à défendre. Vous savez, on veut souvent plaire à tout le monde. Et Marco l'a compris avant nous. Hein? On peut pas plaire à tout le monde. Peut-être vous ne regardez pas la télé, Marco, c'est quelqu'un qui fait une émission qui s'appelle « On peut pas plaire à tout le monde ». À part les pasteurs, personne ne regarde la télé ici. Je me souviens du temps où c'était nous les pasteurs qui disions aux gens « Attention à la télé ». Maintenant, ils sont tellement sains et nous, on regarde la télé. Du coup, ils sont plus au courant de rien du tout. Eh, regardez un peu la télé quand même. Non, mais cette émission est pas fantastique, mais c'est vrai, il y a des... très piquant, etc. Mais n'empêche, le cœur de l'émission est vrai. On ne peut pas plaire à tout le monde. Vous devez décider à qui vous devez plaire. Moi, quand j'écoutais les gens pour essayer de plaire, je ne sais jamais si j'étais doux ou si j'étais dur. Certains me disaient « t'es trop doux ». D'autres me disaient « t'es trop dur ». Et à la fin, je dis « Seigneur, je suis dur doux ou doux dur ?» Je suis pasteur principal d'une équipe de ministère. Il y a quelqu'un dans mon équipe que j'aime tout particulièrement. C'est un jeune homme, j'ai connu, il avait 17 ans, il était mon copasteur. Et il me disait régulièrement, il me disait, Philippe, tu n'es pas assez, tu diriges pas assez, c'est pas assez clair, on sait pas ce que tu attends. Je dis, ah bon? Mais oui, tu laisses trop de flou. Ah bon? Alors je reprenais les choses en main, il venait me voir, non Philippe, là écoute, tu diriges tellement, tu vois que on va être étouffé. Ah bon? Ouais. Alors je relâchais, puis il revenait. J'ai fait ça pendant 7 ans. Je voulais tellement lui plaire qu'au bout d'un moment, je savais plus qui j'étais. Un jour, je lui ai dit, écoute, tu sais, j'ai décidé, je vais plus chercher à te plaire. C'est fini. Je vais agir avec la conviction de mon cœur et que ça te plaise ou pas, ce sera ton affaire, plus la mienne. Moi, je vais chercher à simplement être qui Dieu m'a donné d'être avec ma pleine conviction et les moments où je suis pas convaincu, chercher la concertation. Mais c'est comme ça que je suis, je chercherai plus à te plaire. Vous savez quoi? On s'est jamais aussi bien entendu depuis ce moment-là. Pas simplement, je suis moi-même avec lui. Et il m'a dit, Philippe, que tu fasses cela, ça m'a libéré. C'est pourquoi, n'essayez pas de plaire à tout le monde. Votre caractère ne se formera jamais à l'image de Christ de cette façon-là. Quand vous avez peur de qui vous êtes, Paul nous dit, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Si je cherchais à plaire aux hommes, est-ce que je serais serviteur de Christ? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Le succès de ta vie, ça ne dépend pas du montant de ton compte en banque seulement, de l'abondance de ta vie sentimentale ou professionnelle. Le succès de ta vie dépend de la conformité de ta vie avec l'intention de Dieu pour toi. Dieu t'a créé comme une personne originale. Et tant que tu cherches à être une photocopie de quelqu'un, tu seras jamais heureux. Personne ne peut faire ce que toi tu peux faire sur la terre, dans le contexte où tu es, parce que Dieu t'a créé avec ton originalité. Et si tu cherches à être quelqu'un d'autre, tu pourras jamais faire ce pourquoi Dieu t'a créé. Cherche à être original, je dis pas excentrique. Je dis simplement d'accepter pleinement qui tu es en Dieu. Ce certificat de conformité que Dieu veut mettre sur ta vie en disant, voilà, ça correspond au plan que j'ai eu pour toi. Tu as la personnalité que j'ai voulu pour toi. Tu as une ADN unique. Et c'est pourquoi Dieu veut que tu aies ta personnalité unique, parfaitement, sans gêne, sans honte, sans complexe. Sois libéré de cette image à défendre, de dire, il faudrait que je sois charismatiquement correct. Jette ça et tire la chasse. Et sois libre d'entrer dans qui Dieu t'a donné d'être. Vous savez, J'ai été très béni en voyant le film Les Chariots de Feu. Vous avez déjà vu Les Chariots de Feu? Avec les pasteurs qui regardent les films ici, hein. Non, c'est pas grave. Donc, Chariots de Feu, c'est un homme chrétien qui fait des courses et qui a remporté des Jeux Olympiques. Et il s'appelle Eric Liddell. Et il dit à un moment donné, il est croyant et il dit, Dieu m'a créé pour une intention. Il m'a fait rapide. Et quand je cours, je sens son bonheur en moi. Et si je ne le faisais pas, je n'entrerais pas dans ce qu'il a pour moi. Je trouve ça beau. Je trouve ça magnifique. Dieu ne t'a pas appelé à faire exactement comme quelqu'un d'autre. Il t'a appelé à faire exactement comme toi. Comme toi. Comme toi. Tu es. Et c'est pourquoi c'est seulement quand tu acceptes cette originalité que Dieu t'a donnée, tu vas être libéré de cette image à défendre. À votre avis, dans quelle mesure vous êtes en phase avec l'intention de Dieu dans vos vies? Alors juste avant de passer dans les petits groupes tout à l'heure, je voudrais maintenant qu'on vive un petit moment devant Dieu ici, parce que je voudrais inviter certains à venir demander le piercing, et même dans ce moment-là, à demander au Seigneur à amener à la lumière du Seigneur les secrets douloureux, si vous en avez dans vos vies aussi. Alors je voudrais simplement vous encourager, pour tous ceux qui veulent ce piercing, à approcher ici devant, et même vous mettre comme à genoux ici devant, pour dire, Seigneur, perce mon oreille, et je fléchis mon genou devant toi, et je te demande, perce mon oreille. Et puis pour vous, qui vivez avec ce secret douloureux sur votre cœur, et vous voulez en finir avec ça, je veux vous exhorter, levez-vous à votre place et entrez dans la libération de ceux qui sont les métanoïés, ceux qui changent de mentalité. Le Seigneur leur a ouvert les yeux pour qu'ils le voient autrement, qu'ils se voient autrement et qu'ils puissent devenir des témoins. Vous ne serez jamais des témoins et des bénédictions pour les autres si vous-même, vous vivez encore avec cette culpabilité sur vous. Il faut en finir avec ça. En finir avec cette accusation, en finir avec ce manque de justification sur vous. Christ a été fait péché pour que nous soyons justice de Dieu. Amen. S'il y en a donc qui veulent ce matin devenir ces métanoïés et d'autres accepter ce piercing de la part de Dieu, je vais maintenant vous inviter à vous approcher ici devant. Et on va prendre ce chant qui dit, je fléchis le genou devant toi. Je fléchis le genou devant toi. Est-ce qu'il y a des percées ce matin? Des personnes qui veulent dire, oui Seigneur, je veux cette percée dans ma vie. Approchez. À genoux devant Dieu, que ce soit sérieux, réel. Et il va y avoir des épreuves. Je ne vous appelle pas à des bénédictions, je vous appelle à des marques dans vos vies. Et ces marques vont vous qualifier pour servir d'autres. Mais Seigneur, je dis oui, parce que je t'aime tant. Oui, je veux que tu règnes sur moi. Je te donne ma vie et mes droits.
Jésus soit mon maître et mon roi. Je ne veux pas cacher mon péché. Je ne veux pas tromper ta bonté. Je n'ai qu'un seul désir, qu'un seul souhait, celui de te servir et t'adorer. Et j'abandonne ma personne.